RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Allez, c'est parti pour les grandes gueules. Bonjour, bienvenue les grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story à la télé. Alain Marchal n'est pas là ce matin. Il a commencé le week-end un peu plus tôt, donc on le salue du côté de Nice. Abel Bouilly, lui, il est bel et bien là, ouais. Notre éducateur. Salut Abel.
Salut les amis.
Charles Consigny, l'avocat. Salut Charles.
Bonjour à tous.
Et puis Flora Guebali. Bonjour Flora.
Salut les GG, salut tout le monde.
Entrepreneur dans la transition écologique. De quoi va-t-on parler tout à l'heure? C'est Mathieu Pigas qui sera face au GG. Alors Mathieu Pigas, c'est notamment l'actionnaire, l'un des actionnaires de la société, cette boîte de production importante télé, Media One. Et Media One travaille beaucoup pour le service public. Et à ce titre, Mathieu Pigas a été auditionné par la commission qui s'intéresse au financement de l'audiovisuel public. Ça a été très chaud entre lui et le rapporteur. Mathieu Pigas sera donc avec nous. On va essayer de comprendre effectivement comment ça fonctionne. Est-ce que les sociétés privées ne se font pas beaucoup d'argent sur le service public alors qu'il s'agit d'argent public par définition? Rappelons le budget du service public, c'est 4 milliards d'euros chaque année. Mathieu Pigas passe au GG tout à l'heure à 11h. Mais d'ici là, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Il y a un grand débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale concernant le 1er mai. Est-ce que la fête du travail va devenir la fête au travail?
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
De tradition, pas trop cuite s'il vous plaît.
Très bien.
Est-ce que vous saviez que les boulangers et les fleuristes n'avaient pas le droit d'ouvrir leur boutique le 1er mai?
Ça, c'est Gabriel Attal qui s'est mis en scène dans une petite vidéo parce que son groupe, le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, défend aujourd'hui une proposition de loi qui vise à autoriser les salariés de certains commerces à travailler le 1er mai. C'est un jour historiquement férié et chômé. Seuls les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur travail, ont le droit de travailler ce jour-là. C'est pour ça que des policiers, des urgentistes travaillent le 1er mai, des journalistes aussi. Mais si, par exemple, un boulanger veut ouvrir ce jour-là, ben seul le patron peut tenir le magasin. Il n'a pas le droit de faire travailler ses salariés. Pareil pour le fleuriste, ce qui paraît complètement dingue, puisque le 1er mai, c'est la fête du muguet aussi. Mmh. Ce qui paraît aussi dingue, parce qu'on est en France, c'est qu'on a mis tellement de dérogations qu'on n'y comprend plus rien. Par exemple, les fast-food sont ouverts le 1er mai, et là, on a le droit de faire travailler les salariés. Donc, c'est pour ça que Gabriel Attal et d'autres veulent autoriser les salariés sur la base du volontariat à travailler ce jour-là, sachant que ça sera bien sûr payé double. Les syndicats sont vent debout. De la CGT à la CFDT, ils estiment qu'on est en train de remettre en cause le 1er mai dont on célèbre les 140 ans. Et il faut garder le 1er mai tel quel. Alors, dans quel camp êtes-vous? Le 32-16 pour intervenir. Flora Guebali.
Ce que fait Gabriel Attal, c'est malin comme à son habitude, c'est que en fait il vient corriger une anomalie, c'est-à-dire pourquoi les fast-food ont le droit d'être ouverts et pas les boulangeries. Ça fait une distorsion de concurrence, c'est-à-dire qu'on peut aller s'acheter un burger mais pas un jambon beurre le 1er mai, ça n'a pas de sens. Pourquoi on peut vendre du muguet dans la rue mais on peut pas aller chez le fleuriste acheter son muguet? J'imagine qu'il y a plein de fleuristes qui seraient contents qu'on leur achète à eux plutôt que un vendeur à la sauvette dans la rue. Donc ce que fait Gabriel Attal, c'est que comme d'habitude, en fait, c'est sa technique politique et elle est assez maligne, en fait. Il prend un symbole politique qui est le 1er mai et il vient corriger un petit truc dans la loi qui était déjà une anomalie. Maintenant, cependant, le vrai débat sur le 1er mai, c'est souhaite-t-on continuer à consacrer ce jour comme un jour férié, comme le jour qui raconte aussi l'histoire des droits du travail et des droits du travailleur? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est en train de rétro-pédaler ceux qui nous disent, je sais qu'Edouard Philippe, il disait ça à un moment, si on veut concurrencer avec l'Inde, il faut qu'on soit capable de travailler comme les Indiens. Ben, je pense pas, non. Je pense qu'il faut qu'on fasse autre chose. Mais je pense qu'on n'a pas fait 150 ans de conquête sur le droit du travail pour aujourd'hui revenir en arrière.
Donc, il faut pas revenir sur l'interdiction de travailler le 1er mai.
Le 1er mai, c'est vraiment la symbolique de ça. Donc, si on veut que dans ce pays, il n'y ait plus aucune règle et plus aucun cadre, après, on s'étonne que les Français comprennent plus rien et que tout soit délité. Ben, ça fait partie des choses qu'on veut gagner.
Contre cette proposition de loi.
Donc, c'est pas la proposition. J'ai apporté la la nuance, parce que c'est pas la proposition de loi qui me dérange, c'est le principe général. Moi, ce qui me dérange, c'est de dire, bah, le 1er mai, certains vont travailler, certains vont pas travailler. Non, on travaille pas. Et évidemment, oui, les ambulanciers travaillent, mais ça, c'est, ça a toujours été.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un débat qui est un totem qui mêle trois sujets, comme tu l'as dit, à la question du droit du travail ou du droit à travailler, l'histoire sociale et les enjeux économiques. Donc, l'État se place du côté des enjeux économiques, forcément. Les syndicalistes et ceux qui accordent une certaine importance à l'histoire se placent de ce côté. Mais ce que je trouve fou en France, c'est qu'on interdise à des gens de travailler. C'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu de nuance. Ceux qui veulent célébrer l'histoire sociale, les acquis, ils peuvent le fêter le 1er mai. Bah si, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, mais il y a des gens qui ont envie de travailler.
Donc, tu es sur la base de la liberté et du volontariat.
Il faut laisser les gens travailler. Déjà qu'on se plaint qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler en France, et de l'autre côté, on empêche des gens de travailler. Donc dans tous les sujets en France, on est dans une situation où le chien se mord la queue, et c'est ça qui fait plutôt confusion auprès des Français, je pense.
Donc t'es plutôt pour cette loi ?
Ben, je suis pour. Ouais.
Charles ?
On a le sentiment en France, de toute façon, que le simple fait de faire travailler quelqu'un, c'est déjà un crime. Le simple fait de recruter quelqu'un, vous êtes un employeur, vous êtes déjà un esclavagiste. Vous êtes déjà suspect, vous êtes potentiellement un fraudeur fiscal, vous êtes en tout cas quelqu'un qui écrase son prochain, et donc il faut avant toute chose vous soumettre à des contrôles, à des interdictions, et surtout vous lier les poings et les pieds, les poignets et les chevilles, pour vous empêcher de commettre ce crime qui consiste à employer votre prochain. Alors qu'à l'inverse, en France, si vous êtes un salarié, comment êtes-vous perçu ? Vous êtes avant tout quelqu'un qui a des droits. Vous êtes avant tout quelqu'un qui a le droit de ne pas travailler. Vous êtes avant tout quelqu'un qui a le droit de poser ses jours de congé, ses RTT, son télétravail, son congé maternité, son congé paternité, son arrêt maladie. C'est avant tout ça, un salarié en France. Et pas du tout quelqu'un qui travaille. C'est pas du tout quelqu'un qui est là pour travailler. C'est quelqu'un qui est là pour ne pas travailler, mais sous le régime d'un contrat de travail. Donc, écoutez, moi, tous ces débats, je les trouve complètement bouffons. Et d'ailleurs, le jeune Attal est le même qui, je le rappelle, a expérimenté la semaine de 4 jours dans la fonction publique. Il va pas nous faire croire que c'est quelqu'un qui défend le travail. C'est d'ailleurs le dernier à demander une baguette pas trop cuite dans une boulangerie. Je veux dire, ça montre qu'il n'y va pas souvent quand même acheter son pain, parce que plus personne ne fait ça. Mais bon.
Ah bon ?
Moi, je fais ça, moi.
Tu précises une baguette pas trop cuite. Non, moi, j'ai jamais fait.
Ça veut rien dire.
J'ai déjà entendu des clients.
C'est marrant parce que moi, j'ai réagi là-dessus aussi. Je me suis dit, ces communicants ont dû lui dire pour faire vraiment boulangerie, tu dis pas trop cuite, parce que les gens disent ça dans les boulangeries.
Mais parfois, le boulanger te demande.
Pas trop cuit,
monsieur.
Alors moi, le boulanger qui fait ça, je le tape.
Toi, on sait que tu vas pas à la boulangerie, Charles.
Si, j'ai une excellente boulangerie à côté de chez moi, meilleur ouvrier de France, et donc je vais acheter mon pain.
Et jamais, le boulanger t'a demandé pas trop cuite la baguette.
Non, parce que moi, je fais ce truc qui exaspère les commerçants, c'est que souvent, je suis au téléphone pendant que je fais mes courses. Les commerçants détestent ça. Ils trouvent que tu leur manques de respect.
C'est pas faux.
Pardon, j'ai du travail. Donc en tout cas.
Attends, Charles, le prix d'une baguette tradition pas trop cuite actuellement.
1,20€. Chez mon meilleur ouvrier de France, 1,20€.
C'est d'ailleurs de plus en plus cher.
À Paris, c'est 1,20€.
C'est rien à côté des pains.
Vu le prix de la farine.
Les bobos de mon quartier qui achètent des pains en graines, etc.
Moi, par exemple, 8€.
10€.
8€ le. Attends, qui s'achète 8€ ?
Non, alors, donc, bon. Je dépense tout mon salaire DGG à la boulangerie. Pourquoi ? Parce que la farine blanche est très très mauvaise pour la santé. Et j'ai, dans ma casquette d'entrepreneur dans la transition écologique, beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, je ne peux plus acheter ça parce que j'ai vraiment l'impression de me détruire ma santé. Donc, j'achète des pains multigraines, céréales. Et voilà. Ma boulangerie de quartier que j'adore, qui fait ça à 8€, ne veut même pas me le trancher. Et ça, je trouve que c'est un peu too much.
C'est 8€ de plus.
Ils disent, ah non, nous, on tranche pas le pain. Alors ça, je vois pas d'où sort cette conviction. Je sais pas. Mais,
en plus,
j'avoue que ça,
les gens achètent son pain chez Chanel.
Voilà.
C'est 8€ le pain, exactement.
Non, mais je préfère me ruiner en alimentation qu'en vêtements.
Oui, c'est des choix.
Contrairement à toi, qui est habillé en Dior de la tête aux pieds.
Voilà, et qui a une veste à 500 euros.
Je termine ce que je voulais
combien
dire.
Combien a coûté ta veste?
Je ne sais plus. C'est une veste vintage. Je termine ce que je voulais dire.
Restons sur le sujet.
Je pense que cette loi, si tu veux, si vous voulez, est une espèce de cache-misère. C'est-à-dire que comme en fait, ils n'ont rien fait depuis 10 ans sur la question du travail et qu'on est un pays qui travaille toujours moins, malgré 10 ans au pouvoir du parti Renaissance, eh bien, ils dégainent cette loi bidon.
Voilà. Oui, parce que il faut se souvenir que tout est parti de contrôles qui avaient été faits dans des boulangeries. On avait reproché à des boulangers de travailler, de faire travailler les salariés. En plus, d'ailleurs, ils étaient plutôt de bonne foi parce qu'ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas le droit ce jour-là d'ouvrir et ils avaient été sous la menace de sanctions. Patrick est avec nous justement au 32-16 et il est artisan boulanger. Bonjour Patrick.
Ouais, salut les GG. Bonjour.
Est-ce que c'est une bonne idée selon vous de permettre à vos salariés notamment de travailler ce jour-là le 1er mai?
Déjà, je vais vous raconter une aberration, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier, les épouses d'artisans boulangers, on doit les déclarer en tant que conjoints salariés. Et même mon épouse, qui est déclarée conjointe salariée, qui est active dans l'entreprise, hein, puisqu'elle est responsable, elle n'a pas le droit de travailler ce jour-là.
D'accord.
D'une part, et la deuxième part, pour moi, j'arrive pas à en comprendre actuellement. Notre modèle social, on dit qu'il est basé sur le travail, je sais pas où on va. Voilà, laissant la liberté de travailler aux gens, je ne sais pas.
Mais donc ça veut dire, Patrick, que si vous ne pouvez pas faire travailler aux salariés, vous n'ouvrez pas la boutique?
Être au four et au moulin, comme on dit, ça va être compliqué. Je ne peux pas être au pétrin et au four et puis être au magasin en même temps. Je sais pas,
votre femme ne peut pas être là parce que jusqu'à présent, étant salariée, elle ne pouvait pas travailler?
Avant, elle était conjointe collaboratrice. Ouais. Et depuis le 1er janvier 2026, la loi nous oblige à mettre
on est quand même dans un pays. On est quand même dans un pays de règles, de normes, d'exceptions. Mais le problème, c'est que les syndicats, Patrick, disent que certes, ça sera sur la base du volontariat, mais il y aura quand même une pression exercée sur les salariés qui auront quand même du mal à refuser de travailler ce jour-là.
C'est possible, qui est possible dans les grandes entreprises qui aient des abus, voilà. Mais j'entendais ce matin chez Apolline Sophie Binet de la CGT,
oui.
dire le gouvernement devrait se pencher à ce que les salariés aient un peu plus de pouvoir d'achat. Je sais pas, être payé double et tout, est-ce que ça peut pas leur mettre un petit peu du beurre dans les épinards? Je sais pas, mais bon, voilà.
Ouais. Patrick, donc si jamais cette loi est votée, le 1er mai, vous ouvrez?
Je prendrai le risque, oui, parce que voilà.
Parce que
de toute façon, quand j'ai choisi mon métier, je savais que j'allais travailler les jours fériés. Après, si on veut pas faire un métier comme le nôtre, après, est-ce que vous trouvez logique que par exemple un fleuriste, on l'oblige à fermer et puis qu'il les vendra à la sauvette?
Non, c'est
et
aberrant.
Lui, il paye son URSSAF, il paye ses cotisations, il paye tout. Comme moi, je paye tout. Mmh. Et voilà. Et puis avec le pouvoir d'achat qui diminue. Moins de chiffre d'affaires et tout, et puis là, on va m'obliger de fermer. Ouais, c'est pas normal.
Merci Patrick d'avoir appelé au 32-16 du côté du Loir-et-Cher. Nous sommes avec un autre boulanger, alors tous les boulangers nous appellent, Cédric, boulanger-pâtissier du côté de Rochemort dans l'Ardèche. Bonjour Cédric.
Bonjour les grandes gueules, bonjour. Et bonjour à Charles, que j'écoute depuis une dizaine d'années déjà. Donc
Bonjour cher Cédric.
Vous avez combien de salariés, Cédric?
On est 13 maintenant.
Ah oui, c'est une grosse boulangerie.
Sur deux établissements, oui.
Allez. Et alors, est-ce que vos salariés sont prêts à travailler ce jour-là?
Ben oui, ils sont tous prêts, partants pour travailler ce jour-là, sachant que ça leur représente une centaine d'euros en plus sur la fiche de paye, donc c'est quand même...
C'est doublé.
C'est doublé, oui, donc ça fait une centaine d'euros quasiment, donc c'est quand même important la journée de travail pour eux, donc moi, ils sont tous partants pour venir travailler, pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, donc... Et je pense que l'État, à l'heure actuelle, est en recherche un peu d'argent. Et cette journée-là représente 400-500 millions d'euros de TVA et de charges récoltées sans rien faire. Je pense que l'État en a besoin dans les caisses. Donc je pense que nous laisser travailler, c'est pas si mal, quoi.
Bah oui, ça rend choulon. Mais en même temps, est-ce qu'on remet pas en cause ce jour-là, ce 1er mai, qui était le seul jour de l'année où a priori, personne ne travaillait, enfin, à part quelques exceptions?
Après, il faut laisser libre choix. Si ceux qui veulent travailler travaillent, ça, il y a pas de problème. Celui qui veut pas, c'est son droit aussi. Il y a pas de.
Un de vos salariés dit non, il sera pas montré du doigt.
Pas montré du doigt, mais c'est sûr qu'au milieu d'une équipe, ça fait jamais bien. Mais il sera pas montré du doigt directement non plus.
Ouais, donc il y a une petite pression.
Non, et puis par ailleurs, comme vous le dites, s'il y a 100 euros, s'il y a 100 euros à gagner sur une journée, tout le monde a besoin d'argent, surtout en ce moment, il y a l'inflation. Personne va dire non. C'est ça tout le sujet. Dans ce cas, le 25 décembre, et le 1er janvier. Non, mais le 25, si on peut se faire 100 euros, on va le faire aussi. Et puis le 15 août, on va le faire aussi. Et puis dimanche et la nuit, on va le faire aussi. Et puis en fait, pourquoi? Pour acheter des fringues sur Chine et consommer davantage. Oh. Et en fait, on rentre. Non, mais c'est vrai. Et après, on rentre dans une boucle infernale. Qui sont les excès du capitalisme. Oui, mais... Ne consommons pas à outrance, oui. Parce que ici, on est la France et on n'est pas la Chine.
Bah bien sûr, non, mais t'as raison, Flora. Là, en France, les gens consomment à outrance et travaillent à outrance. On le voit bien. On est dans une outrance de travail et de consommation en ce moment en France. Il faut absolument appuyer sur le frein.
Oui.
Bah, non, mais surtout une demande de la part de nos clients, parce que la preuve, si on est ouvert, si on est ouvert et qu'on fait une grosse journée en recette, ce qui est vrai pour la plupart des boulangeries, ça veut dire qu'il y a quand même une attente de la part de nos clients. Et maintenant qu'on est bien référencé comme un pays touristique, je pense que pour nos touristes, c'est quand même évident d'être ouvert et de faire.
D'autant plus
pays,
que, par exemple, cette année, le premier tombe un vendredi, donc ça fait un week-end de 3 jours, ça fait venir beaucoup de gens. Vous êtes du côté de l'Ardèche et les touristes.
Voilà. En Ardèche, on va avoir beaucoup de passages avec l'autoroute et nationale, et on va avoir beaucoup de personnes qui vont passer 3-4 jours en Ardèche, ça c'est évident.
Et donc en fait aussi on va à la boulangerie pour s'acheter un sandwich. Ce qui est dingue, c'est que le fast-food qui est à côté de chez vous, lui, il a le droit d'ouvrir ce jour-là, il va travailler ses salariés.
Je ne sais pas s'ils sont payés double en plus. Je ne sais pas si dans les fast-food ils sont payés double.
Je crois que c'est une obligation partout. Hein.
Et puis ce qui est terrible, c'est qu'à force de stigmatiser les chefs d'entreprise, on oublie que la majorité d'entreprises, ce sont des PME et des TPE.
Oui, bien sûr.
On fait toujours cet amalgame avec le grand patron du CAC 40 qui a des comptes aux Bahamas. Donc je suis désolé, il faut laisser la liberté, d'autant plus que arrêtons d'être hypocrite. Est-ce que la majorité des Français fête le 1er mai? Très honnêtement.
De toute façon, qu'est-ce que tu fais?
Voilà, non, mais les gens dorment, t'es chez toi, tu dors.
C'est du travail et tu dors.
Donc, ils se reposent et ils consomment pas. Et c'est quand même important d'avoir un mini contre-pouvoir face à l'ultra-capitalisme dans lequel on est.
Ceux qui vont mettre la pression à ceux qui voudront travailler, ce seront les syndicats justement qui vont jeter l'opprobre.
Tu peux aller manifester.
Si tu veux voter, tu fêtes. Il y a pas personne ne t'empêchera. Mais si tu veux travailler, va travailler.
Il faut que les clients soient conscients que s'ils veulent venir acheter, ce qui est la majorité le cas des clients, c'est qu'il faut qu'il y en ait qui travaillent. Sinon, il peut pas avoir que des consommateurs et pas de travailleurs.
Ouais, le problème, c'est qu'on est tiraillé. On est à la fois consommateur, mais aussi travailleur. Et oui, le consommateur veut que les autres travaillent, mais il veut peut-être pas forcément lui-même travailler.
À l'heure actuelle, au niveau de la rigueur budgétaire, je pense que c'est pas une évidence de faire travailler le pays. Je pense qu'on a plus le choix. Enfin, ça paraît logique.
On a besoin de croissance.
Faire rentrer de la TVA en caisse, hein. Ça paraît logique.
Merci Cédric, merci.
Passez
un bon week-end Cédric, merci. Du côté de... Et restez avec nous parce qu'il y a énormément bien sûr d'appels de ceux qui disent que c'est une bonne idée. On aura aussi quand même le point de vue de ceux qui se mobilisent contre cette proposition de loi, notamment une ancienne syndicaliste qui sera avec nous pour dire que c'est une erreur de remettre en cause ce 1er mai chômé. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny, Flora Gebali, Abel Boyi. Cette question, faut-il autoriser les salariés de certains commerces à travailler le 1er mai? La discussion aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les boulangers, on les a entendus jusqu'à présent. Si un boulanger pouvait ouvrir, c'était parce qu'il était le patron de sa boulangerie, mais il travaillait tout seul parce que les salariés n'avaient pas le droit de venir l'épauler. Ça pourrait changer. Les boulangers le souhaitent. Céline Verzelletti est avec nous. Bonjour. Vous êtes élue LFI à Paris et ex-secrétaire confédérale de la CGT. Pourquoi pour vous il est important de maintenir ce 1er mai chômé férié?
Écoutez, c'est le seul jour férié chômé qui est payé. Et c'est quand même symbolique le 1er mai. Il faut savoir que ça a été acquis comme jour férié par la lutte. C'est très symbolique. Et puis après, comment dire, imposer un nouveau une journée de plus, travailler sans avoir une rémunération en plus, c'est finalement encore des, on va dire, des reculs pour les travailleurs et les salariés. Et là, je dois dire qu'on en est à un point où on a ras-le-bol. Les salariés, les travailleurs en ont ras-le-bol parce qu'ils n'arrêtent pas de perdre justement des acquis, des conquis. Et ça, ça suffit, c'est plus possible. Je le rappelle parce que je me suis beaucoup battue à l'époque. On nous a déjà volé 2 ans de notre vie par rapport à la mauvaise réforme des retraites. Donc là, ça sera pas possible. On ne volera pas un jour supplémentaire.
Oui, mais pardon, déjà, un, c'est sur la base du volontariat. Et deux, c'est payé double. Donc on n'oblige personne à travailler ce jour-là.
Alors, le problème, c'est que on dit toujours ça, hein, ça commence toujours comme ça, hein, les mauvaises réformes, ça sera sur la base du volontariat, ça a été pareil pour l'ouverture des magasins le dimanche et le fait de pouvoir faire travailler justement des salariés dans certaines boutiques et magasins le dimanche. On a vu que ça se transforme très rapidement, finalement, en non-volontariat, mais c'est plutôt imposé à des salariés de travailler, parce que, voilà, à un moment donné, si le boulanger, on lui explique qu'il a le droit de faire travailler les salariés, si ces salariés-là ne veulent pas, eh bien, il l'imposera à un des salariés de travailler. On sait très bien que ce genre de dérogation, après, elles ouvrent à autre chose, et en plus, on sait qu'il y aura d'autres magasins qui pourront, par la suite, justement, employer des salariés le 1er mai, même des gros, après ça sera les grosses enseignes qui en ont absolument pas besoin. Donc non, ça suffit, aucune dérogation au droit du travail, et surtout pas pour voler un jour supplémentaire aux salariés qui en ont déjà suffisamment fait, en font suffisamment aujourd'hui.
Il y a 11 jours fériés hein, en France officiels, et c'est le seul effectivement qui doit être chômé et payé. Charles, tu comprends, ne volons pas aux salariés un de leurs jours fériés.
Non, mais madame la camarade Verzelletti s'exprime comme si on était à l'époque de Germinal. On a l'impression qu'on fait descendre des enfants dans des mines et qu'il s'agit de mener la lutte. Je suis désolé, chère madame, mais moi je pense d'ailleurs que la lutte s'inverse en réalité. Et en réalité, ceux qui aujourd'hui mènent la lutte sociale, c'est ceux qui veulent qu'on travaille en France. C'est eux qui militent pour que les Français gagnent de l'argent, soient mieux rémunérés, augmentent leur niveau de vie.
Leur pouvoir d'achat.
C'est eux qui militent pour qu'on garde ce modèle social, pour qu'on garde une retraite par répartition, pour qu'on garde une sécurité sociale, pour qu'on garde une armée capable de nous défendre, une école capable d'enseigner à nos enfants ce qu'ils doivent savoir. Ceux qui militent pour la flemme, la glande, la paresse, au nom d'un modèle qui est complètement dépassé, eh ben je pense que eux ils tuent en réalité ce qui fait de la France un pays encore à peu près agréable aujourd'hui, et de moins en moins, puisque aujourd'hui, si vous avez le malheur d'être dans ceux qui supportent le fardeau de ce pays sur leurs épaules, classe moyenne supérieure, ce pays n'est plus un pays de cocagne.
Céline Verzelletti.
Écoutez, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je sais bien qu'on est plus dans la période que vous dites, heureusement, et encore que parfois je me demande si on va pas y revenir. Mais parce qu'à force de quand même de revenir sur des acquis et conquis, eh bien oui, on revient en arrière et on vit et on subit des régressions. Après, quand vous dites que les gens veulent travailler, bien évidemment, il y a beaucoup trop de personnes qui sont prises d'emploi et ça.
Quand c'est payé double, c'est intéressant.
À part que non, mais ça on verra, parce que pour l'instant le jour férié, il est payé. Donc, si vous allez travailler et que vous n'êtes pas payé double, eh bien là, c'est perdant-perdant. Enfin, c'est le travailleur.
Ce sera dans la loi, c'est déjà dans la loi. Hein.
Après, quand vous dites pour que tout le monde travaille, il faut réduire le temps de travail, déjà, il ne faut pas faire l'inverse. Et justement, il ne fallait pas non plus imposer la réforme des retraites qui demande aux gens de travailler plus longtemps.
Donc,
ils libèrent moins les postes qu'ils occupent aujourd'hui, et ça veut dire que ça libère moins d'emplois pour ceux qui sont privés d'emploi. Donc, finalement, quand vous augmentez le temps de travail d'un salarié, eh bien, vous privez autant de salariés d'emploi.
Mais Madame Verzelletti,
donc ce que vous dites, ça va pas. C'est que justement, à chaque fois, l'évolution et
il faut réduire le temps de travail.
Bien sûr qu'il faut réduire le temps de travail pour que tout le monde puisse travailler.
En attendant, Madame Verzelletti, on a créé quand même de drôles de choses. Par exemple, on autorise le fast-food à ouvrir, parce qu'il peut ouvrir, parce que comme les restaurants ce jour-là ont droit d'ouvrir, donc le fast-food est considéré comme un restaurant, donc il a droit d'ouvrir, de faire travailler ses salariés. Et à côté, la boulangerie qui était un commerce concurrent qui vend des sandwichs, lui il n'a pas droit d'ouvrir, le boulanger. C'est quand même étonnant.
C'est bien ce que je vous dis, c'est que après, à chaque fois, les arguments que vous amenez, ils seront justement généralisés par ceux qui veulent tout le temps nous faire travailler, parce que soi-disant on ne travaille pas assez, en disant oui mais regardez, eh bien, maintenant le boulanger boulangers.
Bah, il faut mieux défendre les boulangers que les fast-food quand même, madame Verzelletti.
Pourquoi est-ce que tel commerce ne pourra pas non plus le faire, parce que finalement tout sera ouvert les jours fériés, les dimanches, et que tout le monde travaillera sans qu'il y ait non plus, d'ailleurs, qu'il soit mieux payé, parce qu'à un moment donné, on sait très bien comment ça se passe, c'est toujours comme ça. Au départ, on vous explique que ça sera sur du volontariat, que vous allez être surpayé, et ensuite, ça s'est imposé, et vous n'êtes plus payé Je viens d'un secteur où on travaille jour et nuit, dimanche et jour férié.
Quel secteur ?
Payé parce que c'est la fonction publique, parce que dans la fonction publique, il y a beaucoup de secteurs où c'est ouvert 24 sur 24.
Oui.
Vous venez de quel secteur ?
Dans le secteur de la justice, dans le secteur de l'administration pénitentiaire, dans la santé, vous avez...
Bah oui, mais il y a plein de gens qui travaillent le 1er mai déjà. Mais
oui, bon voilà, c'est comme ça, parce que là, il y a un service public qui doit être ouvert pour les personnes, et parce que c'est des services qui répondent à des besoins.
Mais le jour de la fête du Muguet, vous ne trouvez pas normal qu'un fleuriste puisse... Enfin, ça, c'est le jour de la fête du Muguet, vous ne trouvez pas normal qu'un fleuriste puisse ouvrir ?
Non, le 1er mai, nous, on manifeste...
Alors qu'on peut vendre à la sauvette du Muguet, mais pas dans une boutique.
Non, non, le 1er mai, moi, j'invite tout le monde à aller aux manifestations qui sont organisées par les organisations syndicales.
Madame Verzelletti, excusez-moi.
Des acquis et des conquis. Parce qu'on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus et on gagne moins en moins.
C'est Madame Verzelletti, bonjour. Alors, quand je vous écoute tout à l'heure, vous avez évoqué les acquis sociaux. Effectivement, c'est quelque chose de sacré. Mais il ne faut pas utiliser les acquis sociaux maintenant pour interdire à ceux qui veulent travailler de travailler. Et quand je vous écoute, il y a comme une sorte de ressenti vis-à-vis des patrons. On parle surtout des PME, des TPE, des artisans, des commerçants, où on sait très bien que ce sont des structures à taille humaine et on a moins de risques d'exploitation que dans des grandes entreprises du CAC 40.
Pas forcément, en boulangerie, on démarre à 4h du matin.
On a moins de risques,
en boulangerie, par exemple, on travaille à partir de 14 ans, parce que ceux qui vont faire leur CAP, ils sont alternants à partir de 14 ans, apprentis. On travaille à partir de 14 ans, on travaille à partir de 4h du matin. C'est difficile, la boulangerie, c'est un secteur très difficile. Je suis désolée, je pense que là on est en train de débattre sur un jour par an qui est le symbole d'une conquête de 150 ans de
140.
Lutte. De 140 ans, excuse-moi.
On fête les 140 ans du 1er mai.
On fête les 140 ans du 1er mai de lutte. Donc, on peut aussi se dire que dans notre société, on a des symboles au même titre que le 25. C'est dans ce cas, on peut dire tous ceux qui ne sont pas catholiques peuvent travailler le 25 décembre.
Non, le symbole de l'acquis social, le symbole de l'acquis social du 1er mai, justement, ça doit être un symbole de liberté. Tu as le choix de travailler ou de ne pas travailler et pas celui d'interdire à celui qui veut travailler de travailler.
On sait très bien que quand c'est ouvert, les gens travaillent parce que...
Mais s'ils le veulent.
En Chine, il y a quelque chose qui s'appelle le modèle 996. Ça veut dire on travaille de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours sur 7. C'est le modèle dominant en Chine. À la base, ils disaient en Chine, on disait la même chose, à savoir, il est volontaire, on fait ce qu'on veut, sauf qu'après, il a été démontré que les salariés qui voulaient pas faire le 996 se faisaient virer de leurs entreprises. Et à la fin, il y a eu des manifestations sociales qui disaient, le 996 nous conduit à la mort. C'est ce que certains disent, c'est ce que certains responsables politiques disent frontalement. Charles et son camp politique,
le 996, ceux qui se l'imposent...
On en est loin parce qu'on a des garde-fous comme le 1er mai.
Les gens qui payent pour la grande masse qui refuse de bosser, ils sont à 996, effectivement. Les artisans, ils sont à 996. Les professions libérales sont à 996. Les indépendants sont à 996. Mmh. Beaucoup de cadres sont à 996. Il y a plein de gens, effectivement, qui y sont. Et ces gens-là, il y a des gens comme toi qui viennent et qui... Ouh, vous avez gagné un peu trop d'argent, là. On va tout prendre pour ceux qui sont à 2-2-4, si tu veux. Donc, il y a un moment...
2-2-4.
Il y a un moment, ça commence à bien faire. Et moi, je trouve que le système français, en réalité, est très injuste.
On va remercier Céline Verzelletti d'avoir été avec nous quelques minutes et donner la parole à Frédéric, qui nous appelle de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est cuisinier. Frédéric, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Moi, j'ai fait 20 ans de plage, hein, parce que mes parents avaient une plage privée sur Nice. Je travaillais pas le 1er mai, c'est en gros entre 50 et 80 000 euros, quoi, que je perds.
Ah,
vous
oui.
voyez ce que je veux dire? Et si on m'empêche de travailler tous les, si surtout qu'au mois de mai, il y a tous ces ponts. Donc si on m'empêchait de travailler tous ces jours fériés, je perdrais beaucoup d'argent. Et a priori, tous ceux qui ne travaillent pas le 1er mai, au moins, ils pouvaient prendre un transat et être au soleil.
Donc, oui, mais voyez, Frédéric,
il y a pas de manifestation à Nice. Hein.
Oui, mais si on pousse la logique jusqu'à l'absurde, si tout le monde travaille le 1er mai, il n'y aura plus personne sur votre plage.
Ah, mais tout le monde ne travaille pas le 1er mai. Il faut rester sur le volontariat, comme pour les dimanches. Voilà. Et puis, c'est payé double, voire triple par certaines sociétés. Donc, en l'occurrence, ça ne pose pas de problème. Les gens veulent travailler. Hein. Faut pas croire qu'ils ne veulent pas travailler. Hein.
Oui, oui, c'est d'ailleurs, c'est, on tord le cou à une idée reçue en disant que les Français ne veulent pas travailler. Il y a des gens qui veulent travailler plus pour gagner plus, en fait.
Et tout le monde ne voudra pas travailler non plus le 1er mai. Un acquis social, c'est pour être libre, normalement. Moi, je comprends pas la logique.
Et peut-être qu'ils veulent travailler plus aussi parce qu'ils sont pas assez bien payés le reste de l'année.
Ah bah moi ils sont plutôt bien payés, mais en plus, ils gagnaient plus le 1er mai, encore plus. Et lui, et le 15 août, alors on m'enlève le 15 août, on m'enlève le 14 juillet, on m'enlève le week-end de Pâques, parce que lundi de Pâques.
Mais tous les arguments sur...
C'est mes plus gros chiffres d'affaires.
Oui, je le comprends, Frédéric, mais tous les arguments qu'on a entendus là, avec Céline Verzelletti qui dit, ben, c'est quand même un acquis social, c'est une journée historique.
Qu'on le mette sur la base du volontariat, tout simplement. Et puis c'est tout.
Et s'il y a un plagiste qui vous dit non, hein, Frédéric ?
Eh ben, je prends un extra.
Ouais. Mais vous aurez quand même un regard sur lui assez négatif.
Pas spécialement. Pourquoi ? Non. Il y en a qui ne travaillaient pas le 1er mai. Hein. Ça dépend les plannings, hein, parce que je ne peux pas les faire travailler non plus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous voyez ce que je veux dire ?
Merci Frédéric, on a bien compris que pour vous ça serait un manque à gagner de ne pas pouvoir travailler le 1er mai. Alors on a posé la question sur le compte X des GG, faut-il autoriser les salariés à travailler le 1er mai? Et vous dites, alors c'est assez clair, vous dites oui à 82,6%. Peut-être que Gabriel Attal devrait se présenter à l'élection présidentielle. Hein, il est plébiscité.
En tout cas, je lui reconnais le talent de savoir ouvrir des débats quand il prend la parole.
Allez, dans un instant, le Joseph, Anaïs Sens va nous rejoindre.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny, Abel Boyi, Flora Gebali et on joue sur RMC toute cette semaine. Vous pouvez remporter votre séjour de 2 jours pour 4 personnes à Europar Park. C'est l'un des plus beaux parcs de loisirs au monde. Il a d'ailleurs été élu 10 fois meilleur parc de loisirs au monde. Europar Park vous attend avec plus de 100 attractions et spectacles ainsi qu'un nouveau quartier thématique européen dédié à Monaco. Des moments inoubliables qu'on vous offre et pour cela c'est très simple, vous envoyez le mot Europa au 7-32-16, Europa au 7-32-16, passage d'antenne du gagnant à 11h20. Donc vous serez en direct en plus avec les GG, autre cadeau très précieux. Allez, c'est parti, Anaïs Sen s'est installée. On s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. L'affaire de la supposée drogue retrouvée dans le sac de Rima Hassan la semaine dernière, affaire classée sans suite par le parquet de Paris hier, estimant qu'aucune infraction n'était suffisamment caractérisée après des analyses poussées. Alors qu'on dit les analyses en question justement, eh bien le produit retrouvé présente selon le parquet une teneur élevée en CBD, un dérivé du cannabis totalement légal. Pourquoi ce produit a-t-il réagi positivement à la catinone, la drogue de synthèse? Eh bien, le parquet ne l'explique pas. Une seconde substance avait été prélevée sur Rima Hassan, du CBD aussi, avec un taux de THC, le principe psychoactif du cannabis, légèrement supérieur à la norme autorisée. Il ne ressort donc pas de cette procédure la caractérisation suffisante d'un élément intentionnel qui aurait été nécessaire à qualifier une infraction. C'est ce qu'indique le parquet. Charles Consigny.
Je m'en fous un petit peu.
Ah bon, on voulait ton éclairage d'avocat. Flora ?
Pas ça passionnant.
On s'en fout pas.
Abel ?
Je m'en fous pas.
Bon, tu t'en fous complètement alors ?
Non, il s'en fout.
D'accord.
Non, complet.
Et la droite s'en fout.
Flora ?
Moi, je m'en fous pas parce que je trouve que c'est dangereux. Rima Hassan, elle est visée, elle va être jugée pour apologie du terrorisme.
Ça, c'est maintenu, évidemment.
Et on a passé 15 jours à parler de la supposée drogue qu'elle avait dans son sac. Et pour le coup, c'est hyper injuste que les médias s'emballent sur quelque chose qui n'est pas confirmé. Et je trouve que dans l'ère dans laquelle nous sommes, Twitter et compagnie, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que déjà, on parle que de ça et on parle pas vraiment du procès qui est quand même pour apologie du terrorisme. C'est pas rien. Une élue européenne visée pour un grief aussi grave. D'autre part, c'est injuste pour Rima Hassan, parce que pour le coup, réputationnellement, l'impact est grave. Si j'étais elle, je ferais un recours et je crois qu'elle l'a fait.
Je suis un peu dans le même esprit. Quand on voit le récit de cette pseudo-histoire, tout a été mis au conditionnel, en fait. Même dans l'énoncé, supposé. Et la question, c'est, est-ce que Rima Hassan est assez conne pour se droguer alors qu'elle sait qu'elle est convoquée par la police, quoi? Donc, voilà. Il y a une histoire qui est beaucoup plus, il y a une affaire qui est beaucoup plus importante derrière. Et je pense que certains ont voulu se la faire dans la bassesse politique, tout simplement.
Certains, à commencer par CNews et compagnie, qui ont comme d'habitude feuilletonné là-dessus pendant 15 jours, alors que le vrai sujet suffit à nous alarmer, c'est quand même de l'apologie du terrorisme.
Et on a le droit de pas être pro Rima Hassan, on a le droit de pas être pro LFI, mais là c'était un petit peu trop gros, quoi.
Les GG, l'absurdité du jour, l'ancien otage français en Iran, Benjamin Brière, retenu pendant 4 ans dans le pays, s'est vu reprocher par le fisc français de ne pas avoir déclaré ses impôts durant cette période. On s'en fout ou pas, Charles ?
On s'en fout pas.
Flora.
On s'en fout pas.
Abel.
On s'en fout pas.
On m'a demandé pourquoi je n'avais rien déclaré. J'ai expliqué que j'étais en prison, que je n'avais pas pu le faire. Ce à quoi l'agent des impôts m'a dit que même en prison, on fait ses déclarations. Oui, enfin, moi, j'étais dans une prison iranienne. Dans ce cas, votre famille aurait pu le faire. M'a-t-on répondu. Des propos recueillis par le journal du net. Sauf que sa famille, il n'arrivait à les avoir que 15 minutes toutes les 4 à 6 semaines à l'époque de sa détention, dans des conditions de détention donc extrêmement difficiles, évidemment. Ils avaient d'autres choses, on suppose, à évoquer que cette déclaration de revenus pendant 4 ans, mon cher Charles.
Je ne suis hélas guère surpris. Vous savez, on dit qu'il n'est pas de monstre plus froid que l'État. L'État est le plus froid de tous les monstres froids. Je pense qu'il faut des sanctions contre l'agent administratif ou les agents administratifs qui ont eu cet entretien avec ce garçon. Je trouve qu'il y a un manque de discernement de la part de ces fonctionnaires, pour ne pas dire de la bêtise crasse qui me paraît incompatible avec leurs fonctions. Et donc j'estime qu'ils doivent être sanctionnés et sanctionnés durement. S'il me revenait de prendre cette décision, je les exclurais de la fonction publique et je les enverrais à France Travail se trouver un autre boulot.
Là où le fonctionnaire, je crois que c'est la fonctionnaire, c'est une femme,
je pense
doit être sanctionné pour toi.
Pour moi, il faut des sanctions et j'en appelle au ministre du budget. Je ne sais plus qui est ministre du budget d'ailleurs, mais qui est ministre du budget ?
Qui a remplacé Amélie de Montchalin parce que c'était Amélie
de
Montchalin. Si c'est David Amiel. Non, c'est
Amiel,
pas David Amiel.
Amiel, je suis pas sûr.
J'en appelle
attends,
à David.
Attends, c'est dingue. Là, tu nous as donné une. Alors, l'Escure est à Bercy.
Non, je pense qu'effectivement, c'est Amiel. Mais c'est
le jeune Amiel. Ça. Toujours. Mais les ministres délégués au compte public, c'est David Amiel. Mais
moi, je pense qu'il faut des sanctions. Je pense qu'il faut des sanctions contre cette fonctionnaire.
Ouais. Flora. C'est aberrant comme histoire.
Il
est obligé d'expliquer qu'il était donc dans une prison, la prison d'Evin, qui est une des prisons les plus dures au monde, et qu'effectivement, à ce moment-là, il pensait pas vraiment à ses impôts.
Et c'est aberrant. J'espère qu'il aura surtout pas à les payer, même avec retard.
Attention.
C'est pas garanti. Donc c'est bien qu'on en parle dans les médias pour mettre un peu de pression sur Bercy.
C'est la bêtise de l'administration.
C'est la bêtise de l'administration. Mais alors ce cas-là, il est particulièrement caricatural. Mais on pense à tous les cas. Femmes célibataires qui n'ont pas accès à leur congé maternité, personne n'a son congé maternité à l'heure. On pense à tous les cas où l'État n'est pas là, l'État ne sait pas répondre à des besoins qui sont précis et qui sont nécessaires et qui font tomber dans la précarité des gens. Et vraiment, c'est un scandale. Et je suis assez d'accord que vous avez remarqué que dans le train, les agents SNCF ils sont devenus très gentils et très sympas et très compréhensifs. Alors qu'il y a quelques années, ça se passait toujours mal dans les trains. Je sais pourquoi. C'est parce qu'ils ont été formés à l'empathie et ils ont été formés à la bonne conduite des relations. Et ça a tout changé. Et donc, je pense qu'il faudrait former les fonctionnaires de Bercy.
Les GG, le palmarès des villes françaises où on est le plus infidèle. On s'en fout ou pas, Charles ?
À moitié.
Flora.
Il a envie de savoir.
Moi, ça m'intéresse quand même.
Abel.
Je dirais, je suis curieux.
Eh bien, c'est Bordeaux qui décroche le titre honorifique de capitale de l'infidélité en France avec 13,26% des indultes inscrits sur un site de rencontre extra-conjugale. Les Bordelais et Bordelaises détrônent Paris dans ce classement établi par Glidden, l'application de rencontre adultérine. Lille et Paris ferment le podium devant Lyon et Rennes qui complètent le top 5.
Attends, tu as dit Bordeaux ?
Bordeaux, on a un petit Bordelais.
On a un Bordelais dans l'équipe. Cache bien son jeu, c'est Pierre Rey, notre webmaster. Viens nous voir, Pierre.
Et d'ailleurs,
Pierre, tu es convoqué.
Si, parce qu'on a besoin de te poser des questions.
D'ailleurs, j'ai souvent senti chez lui.
Bonjour
quelque
Pierre.
Ça
va. Enfin, je dis bonjour, mais on s'est déjà vu ce matin. Mais je dis bonjour à l'antenne.
Bonjour à tous.
Dis-moi, c'est quoi cette histoire des Bordelais infidèles?
C'est vrai qu'on a un peu cette réputation. Et quand je vois autour de moi, c'est vrai que quand je vois tous mes copains, je réfléchis un peu. Ils ont tous fait des petits écarts.
Où est-ce que tu étais hier? T'es copain parce que toi, tu es une fiancée.
Alors moi, j'ai une copine, mais je suis
comment s'appelle-t-elle?
Elle s'appelle Jeanne.
Jeanne,
mais tu m'avais pas dit Clarisse. Et puis, autre question, mais attends, tu m'as envoyé par WhatsApp un MMS avec des menottes.
S'il te plaît.
Clarisse, bonjour. Donc sache que Jeanne est concurrente.
Alors tu confirmes donc cette réputation d'infidèle à Bordeaux?
Bah oui, mais c'est parce que le cadre de vie à Bordeaux est tellement bien.
Ça appelle à la faute.
Faire la fête. Donc exactement ça.
Pourtant vous n'y avez pas cette réputation il y a quelques années, Bordelais, c'était un peu triste.
Depuis que la ville est passée à gauche.
Voilà.
Mais Pierre, t'as vécu avec Louis en coloc. Paraît que c'était le défilé, me dit Louis dans l'oreillette.
Ça va trop loin. Bon. Il est 9h53, trop tôt pour raconter. Merci Pierre,
bien
sincèrement,
entendu.
Notre Bordelais confirme.
Olivier, le profil type du conjoint infidèle, selon l'application, c'est souvent des actifs qui occupent des postes à responsabilité. Et comment on explique la première place de Bordeaux? La plateforme a notamment gagné des parts de marché en région et puis la crise sanitaire a rabattu les cartes avec beaucoup de couples en télétravail qui sont allés s'installer en province. Donc voilà.
Intéressant.
Alors,
Flora,
ça vous donne envie d'aller voir ces villes?
Ça m'étonne pas de Bordelais.
Non, moi je pensais que c'était Paris qui serait en tête. Mais
Paris, combien Paris?
Paris deuxième. Est deuxième, ouais.
Donc c'est
troisième, pardon.
Deuxième. Et en deux, c'est?
C'est Lille et après Lyon, les grandes villes. Hein. Écoutez,
Abel.
Non,
donc il va souvent à Lille.
Ouais. Homme marié, protégez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc Olivier, soyons forts face à la tentation. Voilà.
Bon,
délivrez-nous du mal.
La tentation aussi de trouver du carburant pas cher. Ça, beaucoup d'automobilistes l'ont. Malheureusement, les promesses faites ne sont pas tenues. Après 40 jours de hausse des prix du carburant, on nous avait promis une baisse très rapide en 48 heures. C'est pas le cas. Visiblement, c'est plus compliqué. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc ce matin chez Apolline de Malherbe expliquait qu'il n'avait jamais vu ça. Alors, à quand la baisse? Est-ce qu'on est en train de se faire flouer? À tout de suite sur RMC, RMC Story. Vos grandes gueules sont là.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.